Je ne comprends pas aujourd'hui que des personnes s'ennuient. Et pourtant, on entendait autour de nous, je ne sais pas que faire, le temps ne passe pas, je suis seul, je m'ennuie. Or, il me semble quand même que dans notre société actuelle, on a les moyens de ne pas s'ennuyer. D'autant plus que si on est chrétien, quand même, il y a un appel un peu particulier qui, effectivement, devrait nous faire bouger. Alors, d'où vient cet ennui, Guillaume, d'après vous?
Peut-être en premier lieu, du fait que on ne sait pas, on n'a pas vraiment défini les choses qu'on doit faire, on est assez figé sur des comportements, sur des attitudes personnelles qui font que finalement, ben on a l'habitude de ne pas faire grand-chose, on ne sait pas ce qu'on pourrait faire et du coup, ben on n'avance pas, on se laisse aller, on dit que ben voilà, d'autres sont très intelligents, très riche en idées, mais non, moi je le suis pas, et de ce fait, ben j'avance pas.
On n'avance pas. Mais c'est quand même dommage parce que chaque personne a ses capacités, a ses talents et il ne va pas les utiliser ni pour lui, ni pour les autres. Alors il devrait y avoir quand même un remède, quelque chose, un processus à suivre pour les sortir de cet ennui. Parce que là, c'est un gâchis, je trouve.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que la Bible nous propose? Et dans ce qu'on appelle les épîtres, les lettres, il y a une instruction, un enseignement qui nous propose cinq choses. La première, c'est de rencontrer mon prochain. La deuxième, c'est de savoir parler vrai. La troisième, c'est de savoir investir. La quatrième, c'est de mettre de l'ordre dans ma vie. Et la cinquième, c'est de travailler à ma vie sociale. Voilà cinq choses qui peuvent paraître un peu disparates, un peu curieux, de donner ça, mais voilà, ça fait
Vous allez
partie
les reprendre.
d'un enseignement qui peut être utile. On a, après tout, on a cinq doigts à la main et on compte facilement jusqu'à cinq. Après, compter jusqu'à 10, c'est plus compliqué.
Eh oui, il faut passer à
Et donc,
l'autre main.
on peut peut-être retenir cinq choses et avoir une démarche tout à fait particulière avec ces cinq choses.
Alors, la première, c'est de rentrer en relation avec les autres.
Voilà. Pourquoi? D'abord, entrer en relation avec les autres, ça touche aux gens. Et ce qui touche aux gens, c'est ce qui est très gratifiant. Le problème des gens, c'est qu'il y a des gens qui nous blessent. Il y a des gens qui nous ignorent, des gens qui nous mentent, des gens qui nous manipulent, des gens qui nous finalement qui nous font plus de mal que de bien. Et de fait, on a beaucoup plus envie de les fuir que de les rencontrer. Mais pourtant, la Bible nous incite, nous exhorte à rencontrer notre prochain. Et donc, on a vraiment à faire attention à ça. Notre prochain, c'est notre voisin de palier, c'est notre collègue de travail, c'est notre famille, c'est l'ensemble de ces personnes qui sont près de nous, les gens
Oui,
qu'on croise dans la rue, après tout.
notre prochain n'est
Hein?
pas obligatoirement loin.
C'est ça, c'est celui qui est proche, oui.
Donc, on peut vraiment être attentif à ce qu'il fait, à ce qu'il devient et s'intéresser à lui.
Et donc, rencontrer mon prochain, c'est quelque chose qui, si je que Que si je le pose comme programme, c'est quelque chose qui va me donner véritablement un travail à plein temps. Si pour moi, par exemple, quand je me lève et que je suis seul chez moi, rencontrer mon prochain, c'est dire bonjour au boulanger, si je vais acheter mon pain, c'est dire bonjour au facteur, c'est m'intéresser au boulanger, au facteur, aux gens avec qui j'ai des relations, c'est comprendre que dans la relation à mon prochain, il y a quelque chose de vraiment riche et de vraiment important pour moi. Alors si j'y consacre véritablement du temps, forcément, ça me fera du bien.
Oui, parce que tu es en contact avec autrui, avec les autres, avec le prochain. Non seulement on sort de soi, mais aussi on apprend des choses. On s'enrichit
On s'enrichit
obligatoirement
toujours.
aussi. On apprend toujours comment fait le facteur, comment fait le boulanger son pain, qui c'est qu'il va rencontrer et ses propres expériences. Donc ce serait déjà dommage de s'en passer. Alors le deuxième point.
Le deuxième point, c'est parler vrai, je dirais que le plus souvent, la personne de la rue a tendance à penser que ce qui est à l'intérieur d'elle-même, ça vient comme ça. Et en fait, si tout à coup j'ai envie de porter du rouge, ou de l'orange, ou de l'orange et du noir, ça ne vient pas de quelque part, ce n'est pas quelque chose qui résulte d'une réflexion, d'une expérience, mais ça vient comme ça, et c'est moi. Mais la Bible ne dit pas vraiment ça. Elle dit, par exemple, d'amener toute pensée vers l'obéissance à Jésus-Christ. C'est-à-dire, en fait, chaque fois que je pense, je suis amené à obéir. C'est-à-dire, je suis amené à comprendre quelle est la pensée de Jésus-Christ et à lui obéir. Donc, c'est aussi valable pour la couleur que pour la manière de faire mon café ou mon thé le matin, que pour la manière finalement, d'acheter ma voiture. Et parler vrai, ça résulte de ça.
Alors, quel est le rapport entre parler vrai et la nuit ?
C'est que je m'ennuie parce que je ne me rends pas compte à quel point j'ai du travail dans la vérité qui devrait m'habiter. Je permets à n'importe quoi de venir m'habiter et de ce fait, je me laisse aller et donc je n'occupe pas de temps à m'enrichir pour pouvoir être finalement quelqu'un de riche pour les autres et de riche pour moi.
Oui, donc parler vrai, en fait, c'est une mine à creuser pour s'occuper l'esprit.
Absolument.
Voilà, d'accord.
Et je ne peux parler vrai que si j'ai acquis la vérité. Je n'ai pas utilisé le mot acheter parce que c'est trop, ça touche trop à l'argent, mais si je me suis approprié la vérité. Comment est-ce que je peux parler vrai à propos de toi si je ne sais pas ce que c'est qu'une tuile ?
Donc, je me renseignais sur ce qu'est qu'une tuile d'abord.
Et plus je suis renseigné, et plus je suis quelqu'un qui suis capable d'établir des ponts avec l'autre, en fait. Mais, et donc, il y a un vrai travail qui fait que je ne m'ennuie pas.
Oui. En passant, je signale quand même que la tuile n'a rien à voir avec un pont. Hein.
Sauf les ponts qui ont des toits.
Sauf les ponts qui ont des toits, bien sûr. Alors, ensuite, vous avez un autre point dans votre programme.
Voilà, donc il s'agit de l'investissement. Investir. Investir, les gens qui s'ennuient peuvent ne pas vouloir investir parce que finalement, investir, ça coûte trop cher. Investir, c'est par définition accepter que ce que je vais faire produise, mais je ne sais pas quand.
Et on ne veut pas courir le risque.
Et on ne veut pas courir le risque que ça ne produise pas. Donc, en fait, tout faire pour que ça produise maintenant.
Et ce risque, c'est perdre du temps, parce que quand même, il faut faire attention. Ce n'est pas obligatoirement d'un investissement financier
exactement.
Dont vous parlez. Hein.
Exactement. En énergie, en temps, en amitié. Investir sur l'amitié, c'est se donner du temps pour qu'on puisse se connaître.
Mmh, bien sûr, oui.
Alors, si on se dit, par exemple, de quelqu'un, celui-là ou celle-là...
Pas intéressant.
Il n'est pas intéressant. Il ne me plaît pas. Ah non, ce genre de clients, là, c'est tous des... Quand je les vois, j'ai envie de partir en courant. Mais il faut que j'y aille parce que, bien sûr, c'est mon travail. Ça vaut la peine d'investir. Ça vaut la peine de tendre la main. Ça vaut la peine de donner de l'amour. Ça vaut la peine d'établir des ponts. Investir.
Oui, mais en fait, le risque, quand même, est relativement minime.
Enfin, risque ?
Ben, le risque de se tromper, le risque de perdre son temps avec telle personne, et tous les exemples que vous avez donnés.
Je suis bien d'accord, mais le problème des gens qui s'ennuient, c'est qu'ils n'investissent pas. C'est pas en fait qu'ils aient un mauvais retour. C'est que par crainte du mauvais retour, ils n'investissent pas.
Ils ne bougent pas.
Ils ne vont pas vers les gens, ils ne se rendent pas compte que ces relations-là peuvent vraiment les combler, leur amener tout ce dont ils ont besoin. Un quatrième point ?
Oui.
Hein, donc, c'est mettre de l'ordre.
Dans l'ordre dans ses affaires, matériellement, dans sa tête,
un peu de partout.
Dans sa foi.
Voilà. Mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. On remarque que finalement, les deux premiers points, qui sont rencontrer mon prochain et parler vrai, sont des choses qui touchent aux gens, qui touchent à notre prochain et qui touchent à Dieu et à moi. Puisque pour parler vrai, il faut que je sois moi-même vrai et dans le discernement de la volonté de Dieu. Par contre, investir et mettre de l'ordre, ça touche à ce que je fais.
À l'action.
Ça touche à l'action. Et voilà, investir, c'est savoir attendre que mon action produise, mais mettre de l'ordre, c'est savoir faire une action qui soit vraiment de qualité, une action ordonnée, opportune. Et pour ça, il faut vraiment que je me demande comment est-ce que je peux bien faire et que je le fasse. Les gens qui s'ennuient sont des gens, peut-être que ça paraît un peu absurde de dire ça, mais qui sont désordonnés. Puisqu'en fait, s'ils étaient ordonnés, alors ils s'ennuieraient de manière ordonnée et finalement ils ne s'ennuieraient pas. C'est-à-dire qu'ils feraient ce qu'ils font de manière ordonnée et donc puisqu'il y a l'ordre serait intéressant.
Bien sûr.
Quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un qui est un peu laissé à volo, à ses envies, aux événements, par exemple. Oui.
Il se laisse guider par l'extérieur ou par d'autres personnes, c'est ça. Et il gâche son temps et tout ce qu'il pourrait avoir comme capacité.
On pourrait dire que mettre de l'ordre, c'est commencer par croire que Dieu me donne la capacité d'être ordonné. Que je suis, moi, quelqu'un qui ait toutes les qualités pour faire de bonne manière. Et ça, c'est pas si évident que ça. Mettre de l'ordre, c'est croire que j'ai à tout moment la ressource pour m'organiser. Par exemple, ranger une bibliothèque, ranger des étagères, ranger mon courrier, faire ma vaisselle régulièrement. Je parle aux jeunes hommes célibataires qui laissent la vaisselle d'une semaine et quand ils n'ont plus de couteau, alors ils font la vaisselle.
Ils sont obligés.
Ils sont obligés. Et ça, c'est désordonné. Mettre de l'ordre, c'est comprendre qu'à tout moment, l'ordre est quelque chose qui me sert, alors que le désordre me dessert.
Par définition, l'ordre permet d'y voir clair, de savoir où on va, et de gagner du temps, souvent. Que ce soit un ordre matériel, ou moral, ou spirituel.
Pour mettre de l'ordre, je suis forcément appelé à comprendre qu'à tout moment, je dois recevoir de Dieu des perspectives pour ma journée et je dois aussi comprendre que je suis capable de les mettre en œuvre. Des perspectives pour ma journée, ça veut dire que, par exemple, j'aurais défini que m'étant levé, je vais peut-être prendre une douche, peut-être déjeuner, peut-être manger ceci ou cela parce que j'aurais vu qu'en fonction de mes activités, eh bien, ceci ou cela, ça me convient bien. Manger plutôt du pain ou des fruits ou du fromage. Et pour mettre de l'ordre, il faut forcément expérimenter. Il faut forcément se tromper. Il faut forcément adapter l'ordre que je vais choisir jour après jour à ce qu'il faut parce que finalement, l'ordre va être différent d'un jour à l'autre. Et puis, il reste un cinquième point. C'est la vie sociale.
C'est la vie sociale.
La vie sociale, c'est travailler à son quartier, dans son travail, s'intéresser aux gens, s'intéresser à la vie municipale, c'est rechercher à connaître les gens que je croise dans ma rue pour m'intéresser au quartier. C'est vraiment avoir une vie sociale et comprendre que toutes ces circonstances dans lesquelles Dieu nous place sont les circonstances dans lesquelles Dieu veut nous faire construire quelque chose dans la société. Voilà, s'intéresser à la société, c'est très important. Et peut-être avez-vous un commentaire sur cette...
Je pense que l'intérêt porté aux autres, que ce soit le prochain ou à sa vie sociale, est une source, je l'ai déjà dit, je crois, un enrichissement et qui permet de s'occuper, mais dans le bon sens, surtout s'il y a aussi un aspect spirituel.